Un problème historique. Voici un problème historique qui m'a longtemps angoissé, mais que mes recherches méthodiques et persévérantes m'ont permis de résoudre. Tous les Grecs modernes dont j'ai eu le plaisir de faire la connaissance appartiennent à la race des Poulos. Exemple, Zéphyropoulos, Venizélos Poulos, Constantinopoulos, Santapoulos, Lèdepoulos, Krapoulos, Poulopos, etc. Et comment se fait-il donc qu'aucun Poulos ne figure parmi les Grecs anciens dont j'ai dû apprendre sur les bancs du collège les noms prestigieux, Platon, Vénus, Léonidas, Périclès, Sophocle? Est-ce que par hasard nos bons maîtres se seraient foutus de nous? Mais qui trompe-t-on? Là est la question. Oh, qu'on ne vienne pas me dire que les Grecs modernes ne sont pas les descendants des glorieux ancêtres qu'ils ont jugé bon d'adopter. D'abord, ça pourrait les vexer. Et puis cela ne dissiperait pas le mystère. Je ne sais pas si c'est le premier poulos qui a fait le premier œuf, ou si c'est du premier œuf qu'est sorti le premier poulos, mais je connais les expériences récentes imaginées par un gynécologue anglais. Ces expériences prouvent irréfutablement qu'on est toujours le fils de quelqu'un. Eh bien, puisque les poulos d'aujourd'hui se comptent par millions, il devait déjà y avoir un certain nombre de poulos dans l'Antiquité. Et cela, aucun historien ne les mentionne. Mais qu'est-ce que cela signifie? Allégrez-vous que poulos est un appendice national, signifiant simplement enfant d'eux. Moutardo poulos serait alors l'enfant de Moutardo. Oh, cette explication ne vaut rien, car le père Boutardeau serait le poulos du grand-père, lequel. Mais je ne veux pas recommencer mon raisonnement tout à l'heure. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir, je vais vous dire la vérité. Vous avez sûrement entendu parler de la Renaissance. Vous savez que vers la fin du Moyen Âge, des moines fouineurs découvrirent dans des greniers, sous de vieux meubles hors d'usage, de très anciens manuscrits qui dormaient là en paix depuis 1500 ans. Eh bien, une bonne nouvelle se répandit dans le monde. Les meilleurs de ces manuscrits avaient été composés dans l'Antiquité par des Grecs qui avaient du style, de l'esprit et du civisme. Plus tard, François Ier, quand il fut mis au courant de l'heureuse découverte, se demanda si ces ouvrages anciens ne pourraient pas servir à l'éducation des écoliers de son royaume. Pendant qu'ils traduiront du grec, songea-t-il, ils ne tireront pas les sonnettes du bourgeois. Mais le sage monarque voulut d'abord savoir si les vieux auteurs dont on disait tant de bien étaient assez convenables pour être présentés à des enfants. Il ordonna donc à son ministre de l'Instruction publique de lui apporter tous les livres en question et de les lui lire à haute voix. Le jour dit, le ministre arriva avec son paquet. Mais bientôt le roi, qui avait commencé à feuilleter les volumes vénérables, se mit à se gondoler comme une baleine. Et tous ces gens-là, s'écria-t-il, ont des noms d'accouchés dehors. Écoutez-moi ça. Aristolopoulos, Eurydipilopoulos, Homéropoulos, Alcibiadopoulos, Platonopoulos, Lamellinénopoulos, Minervopoulos, Ocratopoulos et Paminondassopoulos. Mais jamais nos potaches ne pourront prendre ces gaillards au sérieux, mon cher ministre. Vous allez examiner tous les noms baroques et vous devez couper le poulos. Puis vous franciserez l'extrémité, mise à nu. Les Français sont des gens de goût. Quand le travail fut terminé, François Ier constata avec satisfaction que les vocables barbares avaient pris une physionomie bien parisienne. Aristote, Euripide, Platon, la belle Hélène, Socrate. Remarquons à ce propos qu'on est toujours obligé de polir les noms qui doivent passer à la postérité. tout finit par se savoir. Et quand on sut à Athènes et à Corinthe que des Français s'étaient permis d'appeler familièrement Acropole, la colline sacrée d'Acropoulos, et qu'ils avaient même osé dépoulonner le Parthénon, ce fut la consternation. Mais la consternation des Grecs se transforma en épouvante lorsqu'ils apprirent que les hommes d'Occident étaient décidés à leur couper le poulos. Et pour échapper à l'horrible mutilation, ils franchirent le Rotas et allèrent fonder très loin le royaume de Poulogne. Et ils ne revinrent chez nous que dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque dans les rues de Paris, on se mit à crier « Vive la Poulogne !» Ici s'arrête mon apologue. Mettez-vous cette histoire dans le cipoulot.